On va parler donc, je vais le faire dans une série parce que je me suis aperçu que c'est un sujet qui est tellement vaste. Je vais commencer par une première partie. Donc, PowerPoint, voilà, vaincre nos cœurs. La peur, la crainte et l'inquiétude, la frayeur et l'angoisse nous accompagnent tout au long de notre vie, depuis la chute. Elles amènent les hommes à commettre bien des erreurs, mais Dieu a un remède lui-même. Voilà. Après ce côté humoristique, on va parler d'un drame qui est justement lié à ça, qui est arrivé pas très loin d'ici, en Ariège, pas très loin de là où on va en vacances. C'est une vallée qui est à côté, donc octobre 1854, une épidémie de choléra frappe la région. Des habitants du village de Saradale, un peu en amont de Siguère, des femmes, des enfants et des hommes fuyaient le choléra qui atteignit la vallée de Gestiès. C'est encore une autre vallée qui est de l'autre côté. Sans avoir touché leur village, donc ils n'étaient pas a priori malades. Aucun d'eux n'était atteint du choléra. Ils arrivèrent au village de Larkat, sur un village, certainement affamés, transis de froid et fatigués, si fatigués qu'ils se sont endormis comme des masses en pensant qu'ils étaient en sécurité, sauvés de la progression de cette pandémie de choléra. Mais ils ont été victimes de la peur et de la bêtise humaine. Ils ont tous été assassinés dans leur sommeil par les habitants de Larkat qui craignaient d'être contaminés. Donc la peur, on peut en rire, mais on peut en pleurer aussi. On peut en pleurer. Donc on va passer le sommaire rapidement. Donc d'où viennent nos peurs ? D'où viennent nos peurs ? Quelle est l'émotion dont parle la Bible après la chute ? D'où viennent nos peurs ? C'est le suivant. On va y arriver. D'où viennent nos peurs ? Voilà. Donc après la chute, donc Dieu revient vers Adam. Et donc, ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu parcourant le jardin. Alors l'homme et sa femme se cachèrent. Voilà, ils étaient cachèrent avant l'heure. Ils se cachèrent de l'Éternel, Dieu parmi les arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui demanda « Où es-tu ?» Le fameux Adam, « Où es-tu » Celui-ci répondit « J'ai entendu la voix dans le jardin et j'ai eu peur. » Ah ben alors ça alors, car je suis nu, alors je me suis caché. Voilà. Alors, le naturisme, ça peut faire peur, hein. Donc n'y allez pas trop. Des peurs dans un monde soumis à la vanité. Depuis la chute, la création est soumise à la vanité, non pas de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, c'est-à-dire Dieu. Hein. Avec une espérance, cette même création sera libérée de la servitude de la corruption pour avoir part à la liberté glorieuse des enfants de Dieu. Or, voilà, quand on est enfant de Dieu, on n'est plus esclave de la peur, mais on est enfant de Dieu. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement, et Jésus a parlé de comment ça allait finir. À la fin des temps, il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles, sur la terre, une angoisse des nations qui ne sauront que faire au bruit de la mer et des flots. Des fois, on se demande si ce n'est pas actuel. Bon. Parce que la nouvelle génération, ils ont eu le Covid, la guerre en Ukraine, les chasseresses, les inondations, les incendies, tout va bien. Voilà. Les hommes rendront l'âme de terreur, angoisse, terreur, dans l'attente de ce qui surviendra pour la terre, car les puissances des cieux seront ébranlées. Alors on verra le Fils de l'homme venir sur une nuée avec beaucoup de puissance et de gloire. Quand cela commencera d'arriver, redressez-vous et levez la tête, parce que votre délivrance approche. Donc il y aura une fin à ça. Amen. Mais nous sommes dans l'entre-deux. Et dans l'entre-deux, la peur est là. Donc il va falloir qu'on s'en soucie et qu'on sache comment vivre avec elle, parce qu'elle sera là. Alors je voudrais aujourd'hui parler d'abord d'une chose, c'est on ne se rend jamais compte à quel point la peur peut être nocive, à quel point elle peut nous amener, mais alors à faire des bêtises. Et ça m'est arrivé, et ça m'arrivera, j'espère, pas trop souvent, mais ça m'est arrivé, et je vous en parlerai, parce que je ne suis pas exempt de ces choses-là, loin de là. Et donc, j'aimerais qu'on passe à la diapo suivante. Il y a un très monsieur que j'apprécie beaucoup, qui s'appelle Edward Elwesh, qui a écrit un livre « Quand je suis dans la crainte ». Et vous regarderez qu'il a des chouettes lunettes. Donc, il dit cette chose-là. Il dit « La peur et l'inquiétude nous portent à faire des prédictions. » Ça travaille. L'un de leurs messages est clair. Comme elles sont relatives au futur, elles nous font croire qu'une menace pèse sur quelqu'un ou quelque chose que nous aimons. Nous nous prenons pour des prophètes et nous croyons en nos prédictions, même si elles ne se matérialisent pas. La crainte et l'inquiétude ne sont rien d'autre que des prophéties. Ce sont des prophéties qui ne viennent pas de Dieu, mais qui sont des prophéties. La crainte, on va le voir avec les exemples bibliques, elle vous dit tout. Elle vous dit ce qui se passe vraiment, elle vous dit ce qui va arriver. En général, c'est le scénario du pire. C'est toujours le scénario du pire. Et elle vous dit même ce que les gens pensent, alors que vous ne savez pas, en fait. On va le voir. Par exemple, on va le voir avec ce message des 12 espions qui ont été envoyés par Moïse sur l'ordre de Dieu, qui ont été envoyés lorsque le peuple d'Israël est sorti d'Égypte. Il est allé en direction du pays promis, du pays ruisselant de lait et de miel, du pays promis par Dieu, et ils sont arrivés à la limite du pays. Mais avant de rentrer, Dieu a demandé à Moïse d'envoyer 12 espions, un par tribu. Et parmi tous ces 12 espions, il y avait un certain Josué pour la tribu d'Éphraïm et Caleb pour la tribu de Juda. Donc, ils reçoivent des instructions qui sont données ici. Moïse les envoya donc pour reconnaître le pays de Canaan en leur disant « Passez par le Négev, c'est le sud, gagnez la région montagneuse, c'est le milieu, et examinez le pays, voyez comment il se présente et quel peuple l'habite, observez s'il est fort ou faible, nombreux ou pas, voyez quel genre est le pays où il habite, s'il est bon ou mauvais, comment sont ses villes, si elles sont ouvertes ou fortifiées, enfin, la terre est-elle fertile ou pauvre, y trouve-t-on des arbres ou non, ayez du courage et rapportez des fruits du pays. » C'était en effet l'époque des premiers raisins. Donc ils vont y aller, ils vont faire tout ce que Moïse leur a demandé, ils vont revenir avec une grappe de raisins si grosse qu'ils vont être deux à la portée. Donc il y avait du raisin, et pas n'importe quel raisin, du bon raisin. Alors, et voici le rapport qu'ils vont faire. Et c'est là que les problèmes vont commencer. Voici le rapport qu'ils firent à Moïse. Nous sommes arrivés dans le pays où tu nous as envoyés, et c'est vraiment un pays ruisselant de lait et de miel. En voici les fruits. Seulement, alors ça commence là. Là, ça commence. Seulement, le peuple qui l'habite est terriblement fort. Les villes sont d'immenses forteresses. Et nous avons même vu des descendants d'Anak. Alors, les descendants d'Anak, c'est des géants, hein. C'est pas seulement des hommes grands, ce sont vraiment des géants. Alors, Caleb essaya de faire taire le peuple qui commençait à s'en prendre à Moïse. Voilà, parce que la peur vous dit qui est responsable. La peur, elle vous dit tout, elle prophétise. Elle vous dit, voilà, on a un problème, c'est eux. C'est eux la source de notre problème, et on commence à s'en prendre à eux. Il lui dit alors, faisons la conquête de ce pays, nous en sommes vraiment capables. Mais les hommes qui l'avaient accompagné disaient « Nous ne sommes pas en mesure d'attaquer ce peuple, car il est plus fort que nous. » Ça, c'est les prophéties de la peur, le scénario du pire. On va se prendre une tannée, on va se faire ratatiner. D'accord ? Et regardez, puis ils se mirent à décrier le pays, alors qu'ils ont dit qu'il était ruisselant de lait et de miel, qu'ils avaient exploré devant les Israélites en disant « Le pays que nous avons parcouru, et explorer est une terre qui consume ses habitants. » Mais d'où ils sont allés sortir ça? Mais la peur te le dit. La peur te le dit. La peur, elle vient et elle te dit plein de choses, la peur. Elle sait tout. Quant à la population que nous y avons vue, ce sont tous des gens très grands. Même les nains, ils sont grands. Ils sont tous très grands. Les nains, 1m80... Les normaux, 2m50, et les géants, 3m50. Nous y avons même vu des géants descendants d'Anak, de cette race de géants. À côté d'eux, nous avions l'impression. Est-ce que c'était vrai? Non, mais c'était une impression. Parce que la peur est très forte en impression. La peur vous donne des impressions. Quand vous parlez avec des gens qui ont peur, ils vont vous dire « j'ai l'impression que... » Vous avez jamais remarqué ça? Moi, j'ai l'impression que je l'ai remarqué. Nous avions l'impression d'être comme des sauterelles, et c'est bien l'effet que nous leur faisions. Comment savaient-ils que c'était l'effet que ça leur faisait? Ils ne sont pas allés voir les géants, ils n'ont pas taillé la bavette avec eux, ils n'ont pas joué à la belote avec les géants. Non, ils ne le savaient pas, mais la peur, elle leur a dit. La peur, elle leur a dit qu'aux yeux des géants, ils étaient comme des sauterelles. Autre chose, la peur... Quand on a peur, on veut se débarrasser de la peur. Pour se débarrasser de la peur, on veut savoir d'où elle vient. Donc on veut savoir qui est responsable de notre peur. Eh bien, la peur, elle va te le dire. Regardez. La peur, elle va te le dire. Alors toute la communauté se souleva et se mit à pousser de grands cris. Et le peuple poussa toute la nuit à pleurer. Donc la peur nous conduit à l'espérance ? Au contraire, au désespoir. Au désespoir. La peur nous conduit au désespoir. Tous les Israélites critiquèrent Moïse et Aaron. Tiens. Alors qu'ils n'ont fait que retransmettre ce que tu leur avais demandé. Et toute la communauté leur dit, si seulement nous étions morts en Égypte, ou du moins dans ce désert. Ça c'est super, hein. Vraiment. Pourquoi l'Éternel veut-il nous mener dans ce pays-là pour nous y faire massacrer par l'épée ? Vous vous rendez compte de ce qu'ils sont en train de dire ? Vous vous rendez compte ? Où est-ce que ça vous mène ? Ça, c'est les effets de la peur. Et on lit ces textes comme ça, mais quand tu commences à réfléchir, tu vois la progression. Tandis que nos femmes et nos enfants deviendront la proie de nos ennemis. Le scénario du pire. Le scénario du pire. Ça, c'est la peur. Quand on la laisse s'installer dans nos vies et que ça commence à travailler, on en arrive là. Et donc, on commence à chercher qui sont les responsables et on va taper dessus. Ne ferions-nous pas mieux de retourner en Égypte ? Et ils se dirent l'un à l'autre, nommons-nous un chef et retournons en Égypte. C'est-à-dire faire exactement le contraire que tout ce que Dieu voulait, quoi. Donc, ce qu'on constate, avant encore de voir ce qui s'est passé, ce que l'on constate, c'est que la peur, avec toutes ses prophéties, ses scénarios du pire, son apitoiement sur soi et sa désignation des responsables, elle est tout à fait contraire à ce qui est l'essentiel dans la foi chrétienne. L'essentiel dans la foi chrétienne, c'est la foi, l'espérance et l'amour. La peur, c'est l'incrédulité, le désespoir, et ça finit par la haine. Et c'est exactement ce qui se passe. Donc lorsqu'on laisse ces choses-là venir à nous et faire leur cheminement, comme on dit, on va mal finir. On ne peut jamais obéir à Dieu, jamais être dans la foi, et jamais être victorieux lorsqu'on est dominé par la peur. Et le Seigneur est venu pour nous libérer de ça. On en reparlera à l'occasion. On prend un petit exemple. Notre apôtre Pierre, quel grand homme, n'est-ce pas ? Un jour, il voit Jésus marcher sur les eaux. Et tous ont eu peur quand ils l'ont vu. Ils ont cru que c'était un fantôme. J'aurais bien aimé être là pour voir leur tête. J'aurais pris des photos, j'aurais filmé tout. Et donc après, il leur a dit, mais n'ayez pas peur, c'est moi. Bon, alors je peux comprendre qu'ils aient eu peur. Mais... Pierre, quand il voit que c'est Jésus, il dit, si c'est toi, ordonne que je vienne vers toi. Donc Jésus lui dit, viens. Donc Pierre, il commence à marcher sur l'eau, tout va bien. Puis à un moment donné, il regarde le vent, la mer, il a peur et il coule. Et qu'est-ce que lui dit Jésus ? Pourquoi as-tu douté ? Et chaque fois dans la Bible, vous verrez que les gens qui ont peur ne sont jamais dans la foi. Ils ne sont jamais dans la foi, mais jamais. Ça n'arrive pas une seule fois. Ce n'est pas de la prudence. La prudence, c'est autre chose. La foi est prudente. Mais les gens qui ont peur ne sont jamais, jamais dans la foi. Jamais. Jamais ils n'obéissent à Dieu. On va le voir, il y a d'autres exemples. Donc, on vient à la diapo suivante. Peur et foi sont incompatibles. Moïse et Aaron tournèrent face contre terre en présence de toute l'assemblée réunie des Israélites. Je continue le récit. Josué, fils de Noun, et Caleb, qui eux étaient dans la foi, fils de Yéphouné, qui faisaient partie de ceux qui avaient exploré le pays, déchirèrent leurs vêtements, signe de deuil et aussi de consternation, de colère. Ils ne sont pas contents de ce qui se passe. Et dirent à toute la communauté des Israélites, le pays que nous avons parcouru et exploré est un excellent pays. Si l'Éternel nous est favorable, ce qui était le cas, il nous y mènera et nous donnera ce pays ruisselant de lait et de miel. Seulement, ne vous révoltez pas contre l'Éternel et n'ayez pas peur des gens de ce pays. Car nous n'en ferons qu'une bouchée. Leur rhombe protectrice s'est éloignée d'eux, c'est-à-dire leur Dieu, leur faux Dieu, qui n'était pas plus puissant que le Dieu d'Égypte, n'est-ce pas ? Tandis que l'Éternel est avec nous, ne les craignez donc pas. Donc la foi et la peur sont incompatibles. C'est incompatible. Si je suis dominé par la peur, je ne croirai pas. Et je me tromperai. Voilà. Toute la communauté parlait de les lapider quand la gloire de l'Éternel apparut sur la tente de la rencontre aux yeux de tous les Israélites. L'Éternel dit à Moïse, combien de temps ce peuple me méprisera-t-il encore ? Quand cessera-t-il de me refuser sa confiance, alors que j'ai produit au milieu d'eux tant de manifestations extraordinaires? Ils ont eu la manne, ils avaient la nuée le jour, ils avaient la colonne de feu la nuit, ils ont vu les plaies d'Égypte, ils ont vu la plus grande armée de l'époque, la plus grande armée du monde se faire ratatiner en quelques heures. Et là, ils arrivent, il y a des géants, machin, tout ça. Bon, la peur. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Je vais faire un petit récapitulatif. 10 des 12 ont été effrayés par les villes et le pays et ses habitants. Ils ont communiqué leurs craintes à tous les Israélites en décriant le pays promis par le Seigneur. La peur leur a donné un regard déformant et leur a dit que ce n'était pas possible. Ils s'en sont pris à Moïse, à Caleb et Josué et au Seigneur lui-même. Nous avons donc le processus suivant. Voilà, le regard des 10 fixé sur le visible sans aucune foi en Dieu. La peur a déformé leur regard et prophétisé le scénario du pire. Le désespoir et la colère les a amenés à s'en prendre à tous ceux que la peur avait désignés comme coupables ou responsables. Ils ne sont pas rentrés dans le pays promis à cause de leur incrédulité, parce qu'ils n'ont pas eu la foi qui leur aurait permis de triompher. Et ça, c'est le processus que nous devons absolument éviter dans nos vies. Parce que ça, on sera toujours tenté avec ça. Tout le temps. Il arrivera à un moment donné, on sera toujours tenté avec ça. Alors, maintenant, quand la peur détruit la vie d'un homme, on va prendre la vie du roi Saül. Voilà. Alors, Saül, il avait déjà désobéi à Dieu une première fois, alors que Samuel lui avait dit « Tu vas faire ça ». Bon, il n'avait pas fait. Et donc, à un moment donné, Saül répondit à Samuel « J'ai péché car j'ai transgressé l'ordre de l'Éternel et tes instructions parce que j'ai eu peur de mécontenter mes soldats. » Voilà. J'ai eu peur. Et il a désobéi. Paf. Échec. J'ai cédé à leur demande. Voilà. Quand la peur détruit la vie de Saül, la colère et la peur engendrent la haine. Voilà. Alors, une très grande colère s'empara de Saül. Alors là, il avait mal pris la chose à cœur parce que David avait commencé à combattre pour Israël et il allait de succès en succès. Et donc, quand il rentrait d'une campagne guerrière, les femmes d'Israël qui célébraient le fait que les hommes étaient revenus vainqueurs, elles disaient « Saül a tué ses 1000 et David a tué ses 10 000 ». Donc, ça, il a très mal pris. Quand il a entendu ça, il dit « Oh, ça va pas, ça !» Il se mit en colère. Une grande colère s'empara de Saül, qui prit mal la chose, et il dit « On en donne 10 000 à David, et c'est à moi que l'on donne 10 000. Il ne manque plus que la royauté. » Et Saül regarda David d'un mauvais œil à partir de ce jour-là et par la suite. Et nous voyons, ces trois, ils sont tous dans le même chapitre. Vous voyez la progression. Saül craignait la présence de David parce que l'Éternel était avec lui, il s'était éloigné de lui. David réussissait dans toutes ses entreprises et l'Éternel était avec lui. Saül, voyant qu'il réussissait toujours, avait peur de lui. Saül craignit de plus en plus David, il fut en tout temps son ennemi. Ça travaille quand même, hein ? Ça travaille. Alors, verset suivant. Quand la peur détruit une vie, Saül, la paranoïa et le complotisme. Les prophéties de la peur. Une très grande colère s'empara de Saül qui prit. Alors, ça c'est après. Alors, Saül se mit en colère contre Jonathan et cria. Fils de chienne. Le fils de chienne, c'était son fils. Hein. Il parle à son fils. Fils de chienne, c'est une. Dans le Proche-Orient ancien et en Israël, c'est une des insultes les plus graves. Parce que les chiens étaient des animaux qui étaient très mal vus. Pas du tout. Il n'y avait pas 30 millions d'amis, c'était tout le contraire. Donc, fils de chienne, de rebelle. Crois-tu que je ne sais pas que tu as. Pris parti pour le fils d'Isaï. La paranoïa. À la honte, à ta honte et à celle de ta mère. Aussi longtemps que le fils d'Isaï sera en vie, tu ne pourras pas t'imposer ni établir ta royauté. C'est pourquoi fais-le chercher et ordonne qu'on me l'amène sans retard, car il mérite la mort. Saül leur dit, écoutez bien, homme de Benjamin, croyez-vous que le fils d'Isaï donnera à chacun de vous des champs et des vignes? Est-ce qu'il fera de vous des chefs, des milliers et des centaines? Alors pourquoi avez-vous comploté contre moi? De sorte que personne ne m'a averti que mon fils a conclu un pacte avec le fils d'Isaï. Aucun de vous ne se soucie de moi, poverino, et personne ne m'a prévenu que mon fils a dressé mon serviteur contre moi pour me tendre des pièges, comme cela apparaît aujourd'hui. Paranoïa, complotisme. Quand la peur s'installe et qu'on a des difficultés relationnelles, ça commence à travailler. Et là, on fait tout le scénario. On s'imagine tout. Tout nous passe par la tête. Est-ce que ça correspond à la réalité? Non, en général, ce n'est pas le cas. C'est pour ça qu'il faut faire très attention à ça. Parce qu'on est proche de la maladie mentale, là, carrément. On commence à s'acheminer vers des difficultés qui sont quand même assez importantes. Diapo suivante. Quand la peur détruit une vie, Saül, la peur, l'angoisse et la détresse. Lorsque Saül vit le camp des Philistins, il eut grand peur et son cœur fut saisi d'angoisse. Ça, c'est comment il a fini. Je suis dans une grande détresse, lui dit Saül à la fin, quand il veut parler à Samuel, enfin, d'une certaine façon. Donc, on voit qu'à la fin, il va finir dans l'angoisse et dans la détresse. Quand la peur s'installe et accomplit son œuvre, elle peut engendrer la paranoïa, le complotisme, la haine et la violence. Dans tous les cas, elle nous empêche d'obéir à Dieu et de lui faire confiance. Alors moi, j'ai vécu ça il y a quelques années. J'étais responsable d'un groupe de maisons et il y avait un jeune homme dans ce groupe de maisons qui a commencé à avoir des attitudes assez extrêmes, violentes. Et là, je me retrouve à un groupe de maisons qui avait lieu donc dans des appartements ou des maisons qui appartenaient à des membres de l'église. Et au milieu de ça, il y avait quelqu'un qui était violent. Qu'est-ce que j'allais faire? Qu'est-ce que vous faites quand quelqu'un est violent dans un groupe de maisons? Je vais vous dire un truc. J'ai eu peur. Il m'a vraiment fait peur. Donc, je ne savais pas trop comment m'y prendre avec lui. Et puis un jour, à la fin d'un culte, il vient, il y avait sa mère avec lui. Sa mère avait mis de grands espoirs dans la relation qu'il avait avec moi, parce que j'étais le seul à le suivre dans l'église et à essayer de prendre soin de lui. Et donc, à la fin du culte, il vient, il commence à me chercher des noises en plus. Et là, il y a eu la peur et l'irritation. Et donc, je lui ai dit, tu commences à m'énerver. Mais je ne lui ai pas dit avec ces mots-là. Là, j'ai pris la version miel, confiture et comment ça s'appelle, sirop d'érable. Là, je lui ai dit, tu me... Vous voyez? Bon. Et je l'ai envoyé dans les roses. Et ça l'a blessé, enfin, ça l'a vraiment blessé. Et sa mère qui était là, qui espérait que je sois en aide à son fils, je l'ai vu se décomposer, et tous ses espoirs s'évanouir en une seconde, à cause d'une phrase. Parce que j'avais peur. Le Saint-Esprit ne m'a pas laissé tranquille. Hein. Je rentre chez moi, la semaine se passe, je prie, heureusement qu'il y a la vie de prière, nous aide. Et je suis allé le voir, et je lui ai dit, voilà, il s'est passé ça et ça et ça. Je ne suis pas en mesure de m'occuper de toi vu les difficultés que tu as, c'est au-delà de mes capacités, c'est humiliant, mais c'était vrai. C'est humiliant, mais c'était vrai. Et je lui ai dit, bon, il faut qu'on parte en paix et tout ça. Et il a quand même quitté l'église, c'était en partie de ma faute, mais peut-être qu'il fallait aussi, je ne sais pas. Mais au moins, je suis parti en ayant réglé le problème et ça m'a permis de ne pas vivre, même si c'est un mauvais souvenir pour moi, j'ai quand même appris quelque chose de ça. Et donc tout ça parce que je me suis laissé dominer par la peur. J'ai vu quelque chose de beaucoup plus... J'ai assisté à une scène qui était beaucoup plus choquante dans l'église où j'étais avant. Il y avait parmi le... J'avais 3 ans de conversion, moi, j'étais vraiment très jeune, et dans la foi. Et il y avait tout un conseil d'anciens, et un de ces anciens, il y avait un couple là, et c'était quelqu'un, bon, à un moment donné, il voit des choses dans l'église qui l'inquiétaient, qui lui posaient questions. Comme il n'arrive pas vraiment à communiquer avec le pasteur, parce que le pasteur qu'on avait à l'époque, quand il y avait un problème, c'était très difficile de parler avec lui, il était absolument incapable de gérer le moindre conflit. Et donc, comme le problème n'est pas réglé, il prend de l'ampleur. Donc, les gens, il a commencé à en parler avec d'autres, tout ça, et les autres, le pasteur en question l'a vu comme une menace. Et donc, à la fin d'un culte, bon, il y avait les anciens qui étaient là, ils ont un peu interpellé le pasteur pour avoir des questions, pour lui poser des réponses. Et à ce moment-là, j'ai vécu un truc absolument surnaturel avec le Saint-Esprit. J'ai su qu'il allait se passer quelque chose de grave, je ne sais pas comment vous l'expliquer, mais j'en ai eu la certitude. Le Saint-Esprit est tombé sur moi, parce qu'il s'appelle tomber, hein, comme ça. Paf ! Mon cœur a été mis comme sous un dé, comme si le Seigneur voulait protéger mon cœur, parce qu'il allait se passer quelque chose d'absolument... Et là, il y a le père du pasteur qui dit « Ah, mais c'est la faute d'un tel qui veut prendre la place du pasteur devant tout le monde, hein, en fin de culte. » C'est la place d'un tel qui veut prendre la place du pasteur. Et là, on a été dans le cas où la peur, paranoïa, complotisme. Tout le monde savait que c'était faux, et qu'il n'avait pas du tout l'intention de devenir pasteur. C'était un mec qui travaillait, il attendait la retraite, et il était juste pressé d'avoir sa retraite. Et donc, résultat des courses, Ben, tout le conseil d'anciens a démissionné. L'église s'est vidée de moitié. Une phrase. Une phrase, motivée par la peur. Ça a été suffisant pour foutre la moitié de l'église en l'air. Une phrase. Une seule phrase. Attention quand même. Hein. Donc là, on va rester là pour aujourd'hui. La prochaine fois, on verra voilà, les différentes peurs. Il y en a qui sont très marrantes. Vous avez peur des araignées. Parce que moi, une fois, quelqu'un m'appelle, il m'a dit, je suis à tel endroit dans la voiture. Il y a une araignée dans la voiture, donc j'ai arrêté de conduire, je me suis garé. Tu peux pas venir ? Je prends ma caisse, je lui laisse ma voiture, je prends sa voiture, je cherche l'araignée. Je ne l'ai pas trouvée, je suis rentré avec votre voiture. Donc c'est le genre de personne, elle voit une araignée ici, l'araignée ne l'a pas vue, mais elle a fait demi-tour et elle court. Voilà. La peur, vous voyez, ça a des effets quand même. Hein. Ça, c'est, là encore, c'est marrant, mais bon. Voilà, donc on va en rester là. Donc la prochaine fois, on verra comment Dieu, non seulement il ne supprime pas le fait qu'on ait des situations où on a peur, mais surtout comment il s'en sert pour nous changer. Parce que si vous prenez par exemple la vie de David, entre le moment où il a commencé à être embêté par Saül et le moment où il est devenu roi, il y a à peu près une quinzaine d'années. Et pendant ces 15 ans, David, il a eu à faire à la peur, à l'angoisse et à la terreur. Parce que d'un côté, il était pourchassé par Saül qui voulait le mettre à mort, et d'un autre côté, il y avait les nations qui étaient ennemies d'Israël. Donc il était entre le marteau et l'enclume, et pendant 15 ans, il a fallu qu'il apprenne à vivre avec la peur. Ça nous donne quoi ? Des psaumes merveilleux sur ce sujet-là, dont on parlera les prochaines fois. Hein ? Quand j'ai peur, je me confie en toi. Psaume 46, psaume 56. Je me confie en Dieu, en sa parole. En sa parole. On le verra, on en reparlera. Donc il y a de l'espoir, ne vous inquiétez pas. Là, je voulais juste mettre l'accent sur la dangerosité, le côté nocif et extrêmement dangereux de la peur lorsqu'on se laisse dominer. Voilà, que le Dieu vous bénisse et vous accorde la grâce de ne pas avoir peur, enfin de ne pas être dominé par la peur. D'accord ? Voilà. Merci Seigneur, que Dieu vous bénisse.